Allez, on passe au bout de la semaine. J'avais quand même envie d'en parler, les retraites. Notre système de retraite prend l'eau de toutes parts et pendant que le navire coule, l'orchestre des politiques continue à jouer sa partition funeste. Le conclave a échoué. Bayrou tente de sauver un accord pour sauver son poste. Quelles conséquences tout ça, Emmanuel Le Chip ? Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord de voir tout ce conclave, le énième conclave, les discussions ? Et le fait qu'on se dit qu'en fait, un gosse de CM1 pourrait résoudre le problème ? Parce que quand, en 1945, la retraite était à 65 ans, alors que l'espérance était de vie était à 65 ans, la règle de 3 nous permettrait de calculer à quel âge on devrait repartir à la retraite, alors qu'aujourd'hui, l'espérance de vie est à 80 ans, ou alors, plus.
Ça a sans doute pas échappé, Marc, qu'on n'apprenait plus vraiment la règle de 3.
Oui, c'est ça.
Il y a des nouvelles façons d'enseigner les mathématiques maintenant qui défient un peu les lois.
Oui, mais alors justement, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas.
Financière. Non, mais c'est moi ce qui me désespère, c'est de voir à quel point on s'étripe sur des détails, en fait, sans faire avancer vraiment la viabilité de nos systèmes de retraite. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que pour aller conquérir une avancée nouvelle, c'est-à-dire par exemple une année supplémentaire de cotisation, ça demande des efforts de plus en plus démesurés à chaque réforme. Et le problème, c'est que ce qui a échoué là, et au fond, on se rend compte que ça n'est pas très grave, ce psychodrame finalement. Pourquoi ? Parce que on bougeait de quelques millimètres, quelques curseurs, qui font qu'il aurait fallu de toute façon remettre très vite le métier sur l'ouvrage. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on ne se pose pas vraiment les deux seules questions qui vaillent d'ailleurs, qui sont un. Celle qui était posée par le corps. Vous savez, le corps a fait un nouveau rapport, nouvelle version, avec
le comité d'orientation des retraites.
Qui a été censuré, entre guillemets, parce que, bien évidemment, qui peut croire que les prévisions qui sont faites à l'horizon 2070 sont fiables? Enfin, il y avait une conclusion qui était quand même fondamentale, c'était la seule sortie par le haut de tout ça, c'est de travailler plus. Donc, qu'on essaye de réfléchir sur travailler plus, et qu'on essaye de réfléchir au-delà de la retraite, à plus globalement, qu'est-ce que le vieillissement ? Quelle société du vieillissement on prépare ? Mais on se bat sur des 6 mois par-ci.
Oui, mais c'est quand même important, parce qu'aujourd'hui, 6 mois par-ci, c'est 10, 15 milliards. C'est-à-dire, et les 10 ou 15 milliards, on les a plus. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même désespérée. Vous êtes encore très loin de la retraite, Valentine, très très loin. Mais qu'est-ce que ça vous inspire?
Contrairement à Anna qui fête ses 82 ans la semaine prochaine.
Qui en fait 80.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'équilibre financier du système de retraite, il va se détériorer. Et si on regarde les chiffres de la Cour des comptes, il va commencer à se détériorer, mais très rapidement, à partir de 2030, avec un déséquilibre entre les retraités et les personnes qui cotisent. Et parce qu'on est dans un environnement où on va avoir une démographie qui est beaucoup moins favorable.
D'accord,
donc il y a une prise de décision aujourd'hui qui doit quand même être rapide, parce que bon, on doit revenir sur une trajectoire, on doit faire des économies, revenir sur une trajectoire
en 2029. La prise de décision doit être rapide. Oui, tout ça, c'est des vœux pieux.
C'est extrêmement important, parce qu'on ne doit pas basculer dans un cercle vicieux où aujourd'hui on voit que l'exercice budgétaire est rendu plus compliqué par l'environnement économique, parce qu'on a une croissance qui est faible à 0,6, une inflation aussi qui est faible en France pour cette année à 1%. Donc il y a l'exercice budgétaire qui est rendu plus difficile par l'environnement économique, et maintenant on a l'environnement économique qui a le poids de l'exercice budgétaire, parce que maintenant les acteurs économiques, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, s'inquiètent de la trajectoire fiscale. Et donc on a les ménages qui épargnent plus et les entreprises qui limitent leur investissement. On n'y est pas encore, mais aujourd'hui pour moi il faut réagir rapidement pour éviter de basculer dans ce cercle qui n'est pas favorable.
Alain Pitou, on a quand même ce débat totalement délirant en France. Je vous ai réfléchi, non ?
Non, j'ai tenté de réfléchir à ce que j'allais dire.
Mais il n'a pas besoin de retraite, Alain, il est richissime.
Entre la retraite par capitalisation et la retraite par répartition, aujourd'hui, quand on voit le chiffre de l'épargne des Français, 18,8%, au plus haut hors période de Covid, est-ce qu'on peut se dire que globalement les Français en fait se foutent complètement du système de retraite existant, parce qu'ils ont déjà ils en ont fait leur deuil, quoi?
En fait, on a deux catégories de population. On a nos hommes politiques qui sont totalement gangrénés par un système socialo-étatique, ça c'est et qui du coup font ce qu'ils font depuis des années, c'est les 35 heures, c'est le ministère du temps libre, des dingueries comme ça. Et puis on a le reste de la population qui se rend compte que on est coincé, et donc tout le monde sait, et c'est, vous faites un sondage autour de vous, les personnes à la retraite Il y en a quelques-uns, enfin, autour de la table.
Ils
savent très bien que, non, c'est ça aussi la nouveauté depuis quelques temps, c'est que même ceux-là se disent qu'il va y avoir un problème sur leur retraite.
Bah, évidemment.
Sur leur retraite.
Non, mais, oui, mais évidemment.
Avant, ils y pensaient pas à ça. C'est-à-dire que c'était indexé.
Ils sont dans le viseur.
Mais là, ça y est, voilà. Donc, ces gens-là épargnent le peu qu'ils ont à épargner ou parfois le peu qu'ils ont à épargner. Et les autres savent très bien que la situation est dramatique et qu'il va falloir épargner. Et donc, ça donne l'épargne qu'on a en ce moment. Donc, on est quand même, je crois que le cercle vicieux, on y est déjà bien dedans quand même. Et c'est pour ça aussi que je pense que, alors, capitalisation, dès que vous évoquez ce mot-là, c'est une levée de bouclier, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent ah, c'est des méchants, qu'il y a une énorme croissance des dividendes, le capitalisme c'est pas beau, qui en même temps ne veulent pas de capitalisation. Et alors qu'en fait, les gens, enfin les particuliers, se la font eux-mêmes leur épargne de retraite pour plus tard.
Non, mais ce que je disais à leur Clausier, c'est qu'en fait il faudrait plus appeler ça retraite par capitalisation, mais retraite par épargne. Éric Lewin, c'est un sujet qui vous touche pas, vous?
Si, ça me touche énormément, parce que je trouve que les politiques sont nulles. Vous rappelez, en 2011, il y avait Elsa Fornero en Italie. Les taux d'intérêt à 10 ans étaient à 7%. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait une réforme drastique des retraites. On était passé de 60 ans à 67 ans en Italie en l'espace de 10 ans. Nous, on est incapable d'avoir ce genre de politique, parce que les politiques, ils sont très court-termistes. Ils sont nuls. Moi, je suis conseiller municipal d'une toute petite ville des Hauts-de-Seine. Je peux vous dire que quand je vais à l'Assemblée nationale en économie, en finance, et je pense qu'Emmanuel, qui déconne aussi, me dira la même chose, ils sont totalement nuls. Ils sont absolument pas préoccupés par le problème.
Mais on peut pas dire ça, par exemple, Éric Lombard. On peut pas dire que c'est un gars qui est nul. Il connaît très bien.
Sur la fiscalité des entreprises, qui dit non, paye peut-être pas assez d'impôts, vous trouvez qu'il est bon?
Non, je dis pas. Non, mais on peut pas dire qu'il connaît pas l'économie, le monde des entreprises.
D'accord, mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on ne dit pas aux gens, vous mourrez maintenant à 85 ans, vous avez bossé jusqu'à 67
mais
ans?
Mais on le dit, mais on le dit, mais personne
n'y a aucun politique qui prend ces mesures-là. Dans la prochaine présidentielle.
Vous dites de le dire, mais le
candidat qui dira en 2027, moi je veux la retraite à 67 ans pour tout le monde pour équilibrer le système, il fera 2,5%, parce que les Français sont dans un espèce d'état-providence. C'est tout. Donc on est incapable de prendre les bonnes décisions en France.
Alors, comment on en sort, en fait? C'est au lieu de... Bon, évidemment, on peut dire les politiques, machin, tout ça, ce qui est vrai, mais comment on en sort, Emmanuel Le Chypre?
Faut voir aussi comment ça s'est passé dans les pays qui ont réussi à s'en sortir.
Il y en a.
Quand on voit c'est quoi les meilleurs systèmes de retraite aujourd'hui, grosso modo, c'est des pays qui sont plutôt des petits pays, qui ont en majorité des systèmes mixtes dans lesquels vous avez à la fois de la répartition de la capitalisation. Vous voyez bien que les systèmes qui sont 100% soit l'un soit l'autre, ça marche pas. Prenez la capitalisation, le Chili qui s'y était mis revient un peu dessus, donc des systèmes mixtes. Et c'était après.
Non, il y a eu Pinochet aussi, non?
Et après, je veux dire, c'est des pays dans lesquels l'âge de départ est tard et le taux d'emploi est élevé, sachant que ce qui compte aussi et ce qu'on voit mal et vous êtes tous obsédés, Éric le premier, par cette histoire d'âge légal. N'oubliez jamais qu'il y a des pays où l'âge légal est beaucoup plus élevé qu'en France, mais où la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein est beaucoup plus faible. Prenez l'Espagne par exemple, vous êtes à 38 ans de cotisation. Donc c'est tout ça qu'il faut arbitrer, et puis vous retombez. Moi, je pense que l'obstacle majeur, et c'est ça pour moi le nœud de tous nos problèmes, c'est vraiment ce rapport au travail. Idée que on peut s'en sortir finalement,
sans travailler.
Globalement, sans travailler.
Ou en travaillant.
Vous avez vu le rapport aujourd'hui ? On subit sur la difficulté à réformer les retraites cette culture de l'oisiveté, finalement.
Alors, on travaille 666 heures en France en moyenne, contre 770 dans la zone euro.
Ouais, mais c'est à cause de vous, ça vous tire la moyenne par le bas.
Non, moi je travaille beaucoup, je suis les marchés à 24.
Bon, alors je voulais signaler aux gens qui nous regardent pas mais qui nous écoutent que Emmanuel Le Chypre, pour la deuxième fois, a des notes. Et que la première fois que vous aviez des notes, Emmanuel Le Chypre, c'était des recettes de cuisine.
Ça m'arrive.
Donc là, vous avez des notes. Est-ce que c'est des recettes de cuisine ou non?
Non, mais on peut. Moi, je veux bien raconter ma vie aux gens. C'est-à-dire que moi, je rentre chez moi après l'émission directement, sans passer par mon bureau. Et avant l'émission, j'imprime quelques recettes de cuisine qui peuvent m'être utiles.
Tu fais ça tout le temps.
Voilà, il faut le dire. Voilà.